Nous passons maintenant au point 2. Il s'agit d'une interpellation du collège communal par une citoyenne concernant les modes de déplacement doux et la protection des chemins. Donc, en l'occurrence, Madame Marie Bertrand nous a envoyé donc une demande d'interpellation qui est tout à fait conforme au règlement d'ordre intérieur. Madame Bertrand, avant de vous céder la parole, je souhaiterais vous remercier pour votre investissement citoyen. Et je pense que c'est vraiment très bien que les citoyens osent rédiger, osent prendre la parole au conseil communal comme vous le faites aujourd'hui. C'est une preuve de courage, c'est une preuve aussi d'intérêt pour la chose publique. Donc je vous remercie et je vous félicite pour votre investissement. Au niveau
Merci, monsieur.
avec plaisir. Au niveau du règlement d'ordre intérieur, je précise juste que vous avez 10 minutes pour lire votre texte. Le collège communal vous répondra en 10 minutes maximum également. Et puis alors, si vous le souhaitez, vous pouvez répliquer en maximum 2 minutes. D'accord? Donc ici, ce n'est pas un débat. On va vous donner la parole. Il y aura une réponse du collège communal. Mais après, les conseils communaux n'auront pas la possibilité de donner leur avis sur le point. D'accord? Voilà, mais écoutez, je vous cède la parole, donc 10 minutes, et puis ce sera les chevaux qui vous répondra.
Merci. Enfant du village d'Aigné-Tigné, j'arpente depuis mon enfance et selon différents modes de déplacement doux, y compris à cheval et parfois même en luge, les nombreux chemins qui font le charme du village d'Aigné-Tigné. Mon jardin est d'ailleurs traversé depuis toujours par une servitude de passage et par deux chemins communaux. Aujourd'hui, c'est en ma qualité de jeune citoyenne de la commune de Soumagne que je me permets, monsieur le bourgmestre, Mesdames et messieurs les échevins et membres du collège et du conseil, de vous interpeller au sujet des modes de déplacement doux au sein de notre commune et plus particulièrement de la protection des chemins communaux, acteurs majeurs et incontournables de la mobilité douce. J'attire votre attention sur l'enquête publique DT 20 à 28 qui s'est clôturée aujourd'hui, 23 novembre 2020. Cette enquête urbanistique qui s'intitule Construction d'une passerelle est en réalité un projet de mobilité qui vise à déclasser une partie du chemin communal numéro 6 qui relie la voie de Sèvres à Évigné à la rue Matfosse de pardon, excusez-moi, la voie de Sèvres de Tigné à la rue Matfosse d'Évigné, afin que ce chemin ne passe plus devant l'habitation du demandeur et qu'il soit remplacé par une simple servitude de passage sur un terrain privé éloigné de sa maison. Cette demande me paraît en totale opposition avec les articles 5.2, 6.9 et 8.1 de la déclaration de politique communale et me force à m'interroger, ainsi que plusieurs autres citoyens de la commune, sur la préservation de nos chemins communaux. Dans la première partie de mon intervention, je vais motiver mon opposition au projet DT 20 à 28, qui me paraît être un cas d'école. Je généraliserai ensuite ma réflexion avant de poser quatre questions au collège. Tout d'abord, le chemin numéro 6 est un chemin communal séculaire qui est inscrit à l'Atlas des voies ribicinales de 1841. Il est actuellement en pente régulière, ce qui le rend facilement praticable en montée comme en descente, et par tous les types de modes de déplacement doux. C'est un des deux seuls chemins qui permet de relier le village de Tigné à celui d'Évigné, de façon directe et tout en évitant d'emprunter les axes routiers fréquentés. Il favorise ainsi la sécurité des usagers faibles et permet un raccourci non négligeable. Ce chemin longe des maisons et est éclairé sur toute sa longueur par des lampadaires publics. Cela le rend praticable même la nuit, permet un contrôle social et donne un sentiment de sécurité aux usagers, et notamment aux écoliers, qui l'empruntent matin et soir pour aller rejoindre l'arrêt tout proche de la ligne 107 qui se situe voie de Sèvres et qui permet de desservir les écoles de Herve. Si le projet urbanistique DT 20 à 28 est accepté, c'est toute la mobilité douce du quartier qui va être impactée. La création d'une simple servitude de passage en lieu et place d'une voirie communale et la modification d'itinéraire vont avoir les conséquences suivantes. Premièrement, cela va créer un détour de 300 mètres à parcourir dans des conditions difficiles sur lesquelles je vais revenir. La longueur totale du chemin doublerait ainsi, passant de 270 à 570 mètres. Cela va aussi réduire la largeur du chemin et détériorer fortement le cheminement. En effet, le chemin actuel est court et en pente douce, particulièrement sur la partie qui est proposée au déclassement. Le cheminement proposé commence, lui, par traverser le ruisseau sur une passerelle qu'il va falloir construire en dérogation, car nous sommes dans une zone d'espace vert. Il faudra ensuite gravir une pente abrupte sur une cinquantaine de mètres, avant de cheminer sur une centaine de mètres en dévers, sur un terrain en pente forte et glissant. Il faudra ensuite rejoindre le chemin existant en négociant la descente d'un talus vertical d'une hauteur d'1,50 m. Imaginez maintenant le même cheminement, mais en descente. Cela s'apparente plus à un trail de haute montagne plutôt qu'à une promenade familiale. Le nivellement de l'assiette du chemin à cet endroit et l'éventuelle construction d'escaliers permettraient peut-être un cheminement piéton plus aisé. Mais il n'est pas possible, car nous sommes juste en dessous de l'éboulement de la voie de Sèvre, dans un terrain instable traversé par de nombreuses sources. Et tout mouvement de terre à cet endroit mettrait à mal la stabilité de la colline tout entière et risquerait de créer un éboulement, comme cela s'est déjà produit il y a 60 ans. Ce projet va aussi diminuer la sécurité des usagers en rendant le cheminement dangereux, en diminuant le contrôle social existant et en obligeant les usagers à traverser un sous-bois non éclairé alors que le chemin actuel est éclairé sur toute sa longueur. L'accessibilité du chemin va aussi être réduite aux seuls piétons sportifs et cyclistes pratiquant le cyclo-cross. Il sera totalement impraticable pour les cyclistes, les personnes à mobilité réduite, les poussettes et les cavaliers qui peuvent actuellement l'emprunter. Ce projet diminue aussi l'accessibilité aux transports en commun, car il allonge considérablement le cheminement et qu'il demandera aux usagers de traverser un sous-bois non éclairé. Ce projet va aussi détériorer la cohésion sociale, puisque ce projet éloigne le chemin des habitations et il réduit l'accessibilité. Ce chemin ne pourra par exemple plus être emprunté lors de la tournée musicale de la fête du village d'Evigné-Tigné ou par la procession, comme c'est le cas actuellement. Cette modification ne permettra plus non plus de découvrir un des trois moulins d'Evigné, pourtant repris comme point de patrimoine sur la balade communale des Deux Fontaines qui emprunte actuellement ce chemin. Et enfin, ce projet nuira aussi à la protection de l'environnement, puisque le sous-bois, pour le moment vierge de toute présence humaine qu'il traversera, est le lieu de refuge de nombreuses espèces, et notamment de la salamandre tachetée, une espèce protégée. La SBL Tous à pied, promoteur de la marche de loisirs et de la marche quotidienne, estime l'importance d'un chemin en fonction de 4 critères: la mobilité, les loisirs, le patrimoine et l'environnement. Le projet présenté ici détériore tous ces critères et c'est pour cela que la commune se doit de le refuser. Dans ce cas-ci, comme souvent, le meilleur itinéraire est celui utilisé depuis des centaines d'années par nos ancêtres et tout autre itinéraire ne ferait que dégrader le chemin. L'intérêt privé d'un demandeur ne doit pas primer sur l'intérêt général. De plus, accorder un permis de ce type risquerait de créer une jurisprudence tout à fait néfaste à la promotion des modes de déplacement doux. Je pense que tout dossier, plus généralement, qu'il soit urbanistique ou de mobilité, qui détériore un de ces 4 axes ou qui ne répond pas à l'article 9, paragraphe 1er du décret relatif aux voiries communales du 6 février 2014, qui dit, je cite, « La décision d'accord sur la création ou la modification d'une voirie communale tend à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter le cheminement des usagers faibles et à encourager l'utilisation des modes doux de communication. Tout projet qui va à l'encontre de cet article se doit pour moi d'être refusé par la commune. » Cela m'amène ainsi à formuler 4 questions au collège. Premièrement, peut-on, sous le couvert d'un simple projet urbanistique au nom parfois peu évocateur, comme par exemple construction d'une passerelle, demander le déclassement d'une voirie communale? Deuxième question. Lorsqu'un projet urbanistique inclut une demande de modification d'une voirie, d'un chemin ou d'un sentier communal, le collège ne pourrait-il pas demander qu'une étude d'incidence préalable soit réalisée par le demandeur? Cette étude permettrait d'analyser de façon objective tous les aspects du projet et d'informer plus largement la population. Ensuite, quel est le processus de décision lorsqu'une demande de ce type, manifestement en opposition avec la déclaration de politique communale sur la promotion de la mobilité douce, est introduite par un individu dans un intérêt privé au détriment de l'intérêt collectif? Et enfin, serait-il possible pour le collège, dans le respect des droits de chacun, de définir des garde-fous à la modification des chemins, évitant ainsi aux citoyens d'entrer des projets qui nuisent à l'intérêt collectif et évitant ainsi à d'autres citoyens de parfois s'y opposer? Je vous remercie, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les échevins, membres du Conseil et du Collège, pour le temps que vous m'avez accordé. Et j'espère que cette intervention contribuera, à mon petit niveau, à protéger et à développer les sentiers et les chemins qui font le charme de notre belle commune. Merci.
Voilà, merci à vous, Madame Bertrand. Et je vais céder maintenant la parole à notre échevin de la mobilité, Monsieur Azewoutz.
Bonsoir à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir, Madame Bertrand. En préambule, permettez-moi de vous remercier pour votre interpellation. Tout d'abord, il en faut du cran, d'autant plus votre jeune âge, pour oser faire une interpellation publique. C'est un exercice de style pas évident, duquel vous vous en êtes très bien sorti. Ensuite, c'est une belle démarche de participation citoyenne, permettant de susciter le débat et le questionnement. Enfin, il s'agit d'une thématique, la mobilité douce, qui est chère à mes yeux ainsi qu'à ceux du collège et qui mérite donc toute notre attention. En réponse à votre interpellation, nous souhaitons vous apporter les éléments suivants. En ce qui concerne plus précisément le dossier d'été 20 à 28, l'enquête publique se clôture en ce jour. Nous nous limiterons à ce stade du dossier à prendre acte du contenu de votre interpellation. Et réponse sera évidemment apportée lorsque le Conseil communal sera saisi de cette demande, après avoir obtenu les avis sollicités dans le cadre de l'instruction du dossier, d'une part auprès des services internes à la commune et d'autre part auprès des services et administrations régionales et provinciales, en particulier celui du commissaire voyer du service technique provincial pour ce qui concerne la question de voirie, à savoir chemin et sentier dont vous faites référence, ainsi que l'administration des cours d'eau pour ce qui concerne la passerelle. L'élaboration d'un schéma de développement communal et l'actualisation du plan communal de mobilité débuteront l'année prochaine. Dans ce cadre, le volet mobilité sera largement examiné et nous serons attentifs à établir des objectifs et actions qui visent à rencontrer la déclaration de politique communale aussi et particulièrement en ce qui concerne la mobilité douce. À votre question, peut-on, sous le couvert d'un simple projet urbanistique au nom parfois peu évocateur, comme par exemple construction d'une passerelle, demander le déclassement d'une voirie communale? Nous vous répondrons que lorsque la commune est saisie d'une demande, elle est tenue de l'instruire. Tout citoyen a le droit de solliciter un permis, l'autorité devant instruire et statuer au regard de l'ensemble des pièces issues de la demande et de l'instruction. Il arrive également que certaines demandes de permis d'urbanisme ou de permis unique implique la modification, la suppression ou la création de voiries au sens du décret relatif à la voirie communale. La commune instruit donc la demande selon les dispositions reprises à la fois dans le Code du développement territorial, le Code été, et dans le décret voirie avant de statuer sur la demande de permis qui lui est soumise. C'est le Conseil communal qui est compétent sur le volet voirie et c'est le Collège qui l'est sur le permis d'urbanisme. Je précise également que sur la fiche d'enquête publique figuraient bien les éléments dérogation au plan de secteur pour la passerelle, le déclassement d'une emprise du chemin numéro 6 et le déplacement du sentier numéro 21. À votre demande, lorsqu'un projet urbanistique inclut une demande de modification de voirie, d'un chemin ou d'un sentier communal, le collège ne pourrait-il pas demander qu'une étude d'incidence préalable soit réalisée par le demandeur? Cette étude permettrait d'analyser de façon objective tous les aspects du projet et d'informer plus largement la population. Nous vous répondrons que le législateur a décidé de lister les projets soumis obligatoirement à étude d'incidence sur l'environnement. Le dossier d'été 20 à 28 n'est pas soumis à cette obligation. Pour tous les autres projets, il appartient à l'autorité de décider au regard du dossier et du contenu de la notice d'incidence s'il y a lieu ou non de réaliser une étude d'incidence sur l'environnement telle que définie dans le Code de l'environnement, à savoir une étude scientifique relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement d'un projet, élaborée par une personne agréée, choisie par le demandeur. Toutefois, ce type d'étude est limité aux projets de plus grande envergure. On vient d'avoir l'expérience dernièrement. Ces études ont un coût non négligeable, régulièrement plusieurs milliers d'euros, que l'autorité ne peut imposer aux demandeurs pour des projets de faible envergure. De plus, les autorités communales disposent de ressources internes, les axes de la politique communale, les services, la CCATM, et d'autres services et d'autres ressources externes, comme les résultats d'une enquête publique, les services et administrations régionales et provinciales, qui permettent de se forger une opinion et de prendre une décision en connaissance de cause, et c'est l'option qui a été choisie ici. À votre troisième question, quel est le processus de décision lorsqu'une demande de ce type, manifestement en opposition avec la déclaration de politique communale sur la promotion de la mobilité douce, est introduite par un individu dans un intérêt privé au détriment de l'intérêt collectif? Nous vous répondrons, comme déjà signalé, que la commune est tenue d'instruire la demande et de statuer en toute connaissance en y rassemblant toutes les informations issues de l'instruction. Chaque conseiller, puisque c'est une compétence du conseil communal au niveau de la voirie, chaque conseiller va recevoir les informations nécessaires et pourra consulter de dossiers pour déterminer comment il envisage de voter sur le projet de décision, en tenant compte notamment des résultats de l'enquête publique et du décret voirie, en particulier de l'article 9 dont vous faites référence. La décision sera alors adoptée à la majorité des voix. Ensuite, le collège délibérera après sur le volet urbanistique en fonction de la décision du conseil communal. Sa décision sera prise de manière collégiale en tenant compte à la fois de l'intérêt privé et collectif, de sa déclaration de politique communale et en tentant de dégager, s'il y en a une solution qui soit prise dans l'intérêt général. Des recours sont évidemment toujours possibles, tant pour le demandeur que pour les tiers. La décision communale est également susceptible d'être suspendue, voire annulée par la région wallonne, qui assure aussi un rôle de tutelle sur la commune en contrôlant la légalité de la décision prise. Enfin, concernant votre dernière question, serait-il possible pour le collège de définir des garde-fous à la modification des chemins, évitant ainsi aux citoyens d'entrer des projets qui nuisent à l'intérêt collectif? Cela éviterait à d'autres citoyens de devoir s'y opposer. Nous vous rappelons que tout citoyen est en droit de solliciter une autorisation, et cela même s'il a été averti d'un avis de principe défavorable de la commune. Encore faut-il que la commune ait été sollicitée préalablement. Je conclurai en précisant que ce sera notamment via les projets de la commune comme l'élaboration du schéma de développement communal et l'actualisation du plan communal de mobilité auquel la population sera associée à différentes étapes du processus, qu'il sera possible de mener une réflexion plus poussée afin de maintenir, promouvoir et développer la mobilité douce, comme le reprend notre déclaration de politique communale. Merci de votre attention.
Merci, Monsieur Léchevin. Madame Bertrand, vous avez la possibilité de reprendre la parole et puis ce sera fini. Est-ce que vous
Eh bien,
souhaitez le
écoutez,
faire?
je vais tout simplement vous remercier de m'avoir laissé l'opportunité d'avoir la parole ce soir. Et je remercie Monsieur Léchevin pour la réponse qu'il a apportée à mes questions. Ce sera tout.
Voilà, merci à vous, Madame
Merci
Bertrand.
beaucoup.
Excellente soirée. Je vais vous demander de vous déconnecter. Par contre, vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas pour la suite.
Merci. Bonne soirée.
Voilà,
Bonne
excellente
soirée.
soirée, au revoir.